propose de confier à la Sainte Vierge non seulement ce que je vais partager avec vous, mais lui confier aussi dans l'action de grâce tout ce que nous avons déjà partagé depuis vendredi soir. Hein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deux ou trois points préliminaires que j'ai rajoutés ce matin. Le sujet qui m'a été donné est le livre Père Marie-Joseph, Être la joie de Dieu. Je commencerai effectivement par parler à peu près 3 minutes du livre, et puis ensuite je prendrai comme thème Père Marie-Joseph à partir du livre Être la joie de Dieu. Deuxième point, cet entretien est le quatrième de ces journées. En quelque sorte, vous avez le droit à 4 Pères Marie-Joseph en 2 jours. Et je voudrais ajouter cela, acheter le livre. Les droits d'auteur sont pour la Providence. Lisez-le, revenez-y souvent à ces textes du Père, mais ne majorez pas l'emballage, je veux dire les notices, peut-être notices que j'ai faites. Hier et aujourd'hui aussi, en écoutant les 3 autres intervenants, de les entendre, de les écouter, c'était pour moi une bonne leçon d'humilité. Ça m'a montré combien je connais peu et que je connais mal le Père Marie-Joseph. Enfin, troisième point préliminaire, je voudrais remercier Madame Catherine qui m'a permis de faire préparer ce travail. Alors c'est vraiment une joie pour moi de conclure ces journées Père Marie-Joseph par cet entretien sur le livre. Il est le fruit d'une 10 d'années de gestation. Au départ, il y a eu la belle anthologie Par la confiance et l'amour, qui avait toutefois le défaut d'être très succincte, une petite centaine de pages dans un petit format et d'un caractère assez gros, quoi. Et comme à cette époque, c'était 98-99, je terminais une anthologie de textes de Jean-Paul II sur les martyrs et les églises persécutées. Il m'est venu à l'idée tout simplement de profiter de ce savoir-faire que je venais d'acquérir pour prolonger ce livre par un autre, plus copieux, et au départ je pensais une biographie, une anthologie, pour faire connaître le Père Marie-Joseph au-delà de notre fraternité. Et donc avec l'accord du Conseil, j'ai lancé un appel à témoignages et documents, et merci à tous ceux, à commencer par Michel, qui ont répondu à cet appel. Mais je me suis très vite rendu compte que je n'aurais pas la disponibilité nécessaire pour faire les deux, ni même la place, qu'il aurait fallu un livre d'un millier de pages. Donc j'ai choisi l'anthologie, ce qui pour moi était plus faisable, compte tenu d'engagement par ailleurs. Et donc ce livre ne raconte pas la vie du Père. Il y a tout juste une petite 12 de pages qui présentent quelques repères au départ, sur 430, mais sa seule ambition est de faire entendre la voix du Père à travers des lettres, des circulaires, des articles de revue, et souvent par les transcriptions d'enregistrements, d'homélies, de conférences ou d'autres interventions. Pendant 3 ans, j'ai recueilli des documents, commencé à les étudier pour voir un petit peu comment j'allais ordonner cela, comme le disait Jean-Paul, et il m'est vite apparu que s'il fallait attendre que le corpus, c'est-à-dire l'ensemble des documents potentiels, soit complet, et donc en particulier les transcriptions, ça risquait de durer au moins une décennie. Hein, et j'ai donc arrêté quand le volume de documents de base que j'ai reçu et collationné m'a paru suffisamment significatif, à peu près l'équivalent de 2000 pages standardisées. Il ne pouvait pas être question de tout publier, donc j'ai pris mes ciseaux informatiques j'ai cueilli des fleurs de ce champ, puisque c'est la définition étymologique des mots anthologie ou florilège. La première version était terminée d'ailleurs fin 2002, ça remonte déjà à certains temps. Je l'ai présenté au Conseil de la Fraternité, un plan de publication, et puis juste à ce moment-là, pour des raisons diverses, et pendant 4 ans, je n'ai pas eu la possibilité de rouvrir et d'avoir une journée ou deux pour travailler sur ce texte. Et donc je ne l'ai repris que vers la fin 2006. Et entre-temps, certains documents avaient été à nouveau mis en œuvre, retranscrits, mais là aussi, j'ai vu que ça prendrait trop de temps et ramènerait encore des années et des années que de tout changer la structure de l'ouvrage. Et donc, il y a relativement peu de documents en dehors de ceux qui étaient déjà là, fin 2002, début 2003. Le manuscrit était prêt en 2007, il a fallu éliminer les doublons, c'est un gros travail, merci à ceux qui m'ont aidé, obtenir les droits de la province capucine qui nous était gracieusement, et je crois Jean-Paul a déjà remercié, je remercie à mon tour, donné, c'était vers juin 2008 à peu près, et enfin négocier avec l'éditeur un prix qui ne le rende pas totalement prohibitif pour tout le monde, hein, ce qui n'a pas été facile, et finalement ce n'est qu'à l'automne 2009 que le volume est sorti, donc 10 ans entre l'idée et la réalisation, sainte patience. Comment caractériser ce livre par rapport à l'œuvre du père Marie-Joseph ? Un apéritif, mais c'est pas très nourrissant. Le best-of, pour parler comme les jeunes, mais il y a des très belles choses qui sont pas dedans aussi, pas pour tout mettre. Je pense plutôt à l'appartement témoin, vous voyez. Donc, c'est donc une petite visite de l'appartement témoin que je vous propose à partir de ce livre. Répartition en 3 parties, c'est vite imposé à moi et je la prends comme guide. Première partie qui était le père Marie-Joseph. Donc, il ne s'agit pas d'esquisser une autobiographie du père, mais simplement un autoportrait, d'ailleurs presque exclusivement spirituel. Et c'est pourquoi la partie est plus thématique que chronologique, même si les dates de chaque texte, l'année du moins, sont données. À vrai dire, la partie événementielle concerne surtout les premières années, la formation, les débuts dans le sacerdoce, surtout grâce à la correspondance avec sa sœur Ressel. Cette correspondance a déjà été utilisée, je crois, par les 3 autres, donc ça va être un peu répétitif, mais c'est bien, parce qu'en plus, c'était dans la manière du père Marie-Joseph, donc vous ne serez pas perdu. Les lignes qu'il écrit alors qu'il a entre 18 et 25, 26 ans, ont à la fois toute la fraîcheur de la jeunesse et une étonnante maturité spirituelle. Je formule ici à l'attention, et en partie en réponse à une question du père Pio ce matin, à l'attention des futurs, alors moi je vais les appeler Marie-Joséphologues, les jeunes qui l'ont connu comme jeune diront les PMJistes, mais bon enfin, donc aux futurs experts père Marie-Joséphologie, je formule cette hypothèse que sur l'essentiel, le père Marie-Joseph possède déjà fermement, au plus tard à 25-26 ans, parfois même à 18 ans, les bases de sa spiritualité, et surtout aux 25-26 ans, qui sont, on l'a vu ce matin, des bases très franciscaines capucines. Et vraiment, on ne remerciera pas assez le père Pio de nous avoir ouvert tout cet univers. Il les élargira, il les approfondira, il les précisera, et sur des points précis, il les modifiera, mais que ce soit vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Christ, de la Sainte Vierge, de Saint François, des saints, du sacerdoce, du sens de la vie, de la grandeur et des exigences de la vie chrétienne et franciscaine, l'essentiel est là. De plus, il les exprime dans un style qui lui aussi ne changera guère, sauf qu'il les exprime au début en allemand, qui est sa langue maternelle, c'est l'alsacien, et donc l'écriture allemande, et qu'il y a, il y aura une évolution de style évidente, mais le fond du style aussi ne changera pas. Il y a dans ces textes de jeunesse un enthousiasme, une naïveté supérieure, une profondeur qui parle tout de suite au cœur. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à les utiliser largement. Par exemple, accomplissons tous deux notre devoir du mieux que nous le pouvons et essayons de l'accomplir pour Jésus et pour sa gloire, mais joyeusement. Un mot qui va revenir. Quand bien même nous sommes très éloignés l'un de l'autre, cela ne fait rien. Où que nous soyons, nous avons le cœur de Jésus, le tabernacle, voilà notre chez-nous à tous deux. Quelle consolation pour Jésus, il a tant fait pour nous et ne vit que pour nous maintenant encore au tabernacle, plein de bonté et de miséricorde. Ou encore, qu'il ne faut jamais se laisser décourager. La petite Thérèse, déjà là, avait aussi pris cette résolution, il a 19 ans quand il écrit ça, et s'y était fidèlement, et s'est tenu fidèlement, et désorienté, mais qu'il faut donc jamais se laisser décourager et désorienter, mais qu'il faut continuellement tenir son âme dans le repos et la paix, quel que soit le nombre de fautes qu'on pourrait commettre. On n'accepte pas la sainteté en quelques jours, mois ou années. Ces fautes, on les utilise pour s'humilier. Quand tu as commis une faute, il s'agit de te jeter dans les bras de Jésus et sur son cœur, pleine d'une confiance d'enfant, sa miséricorde, de reconnaître que tu n'as rien, que tu n'es rien et que tu peux rien par toi-même, de regretter ta faute, d'avoir une confiance aveugle, de continuer courageusement ton chemin. Ne jamais, et le jeune Aloïs Gerber encore souligne, ne jamais se laisser décourager, etc. Ensuite, on peut le suivre pas à pas dans la montée vers l'ordination diaconale, la préparation au sacerdoce, l'ordination par Mgr Ruch, le crescendo de joie en toutes les étapes. Et en cette année du sacerdoce, c'est un émouvant témoignage d'une spiritualité et même d'une mystique du prêtre. Hein. Et le point aussi a été vu, mais peut-être que je répéterai pas à chaque fois qu'il a été vu par les trois autres intervenants, mais vous l'en ferez par vous-même. Hein. « Bientôt je serai prêtre, ce n'est pas pour moi que Jésus a daigné et voulu me choisir. Il a en vue les âmes qu'il veut aimer, sanctifier et béatifier par moi et en moi. Crois-moi, mon désir de faire un saint prêtre est ardent. Aide-moi à y arriver. » C'est aussi une lettre à sa sœur. « À oublier tout, à quitter tout pour Jésus et les âmes. » Deo gratia, je suis diacre. Quelle grâce, quelle dignité, quel bonheur. Sais-tu bien ce qu'est le diacre? Vous lirez la réponse dans le livre, hein. Bon. Le mystère impénétrable, et ça c'est le lendemain de l'ordination sacerdotale, est achevé. Je suis prêtre, un autre Christ, hein. Ter Christus. Je suis Jésus depuis ce matin de la fête de notre glorieux Saint-Joseph. Anniversaire, c'était vendredi. Magnificat Dominum Mecum. Aide-moi à dire merci au bon Dieu pour avoir abaissé ses regards sur une créature aussi misérable. Laisse ton cœur se livrer tout entier à la joie, maintenant que tu sais ton frère si grand, si tout puissant, si divin par la grâce du Christ notre Dieu. Exulte et tressaille de bonheur et d'allégresse, etc. Toujours la joie. Et puis, ensuite, le père, jeune père, puisqu'il a une journée de sacerdoce, écrit tous les jours près de Jésus, il parle de lui, confiera sa chère petite sœurette avec tout ce qui l'intéresse, ses besoins, désirs, difficultés, joie et espérance. Hein. Ce mélange si caractéristique du Père Marie-Joseph entre le sublime et le souci très concret de ceux qu'il aime. Ensuite, la vie du Père Marie-Joseph se confond assez rapidement et très largement, mais pas exclusivement, avec son apostolat de la fraternité de Bitche, et du tiers-ordre franciscain, l'OFS, de façon que les événements qu'il évoque ici ou là semblent vraiment indissociables de la vie de cette fraternité du tiers-ordre. Toutefois, je dis largement et non pas totalement, même s'il fut apôtre à 100%. Alors, vous avez comment c'est possible, si on est apôtre à 100% de quelque chose, comment il reste de la place pour une autre, hein? Alors, je rappelle que nous disons tous dans l'Évangile qu'il faut tout donner, il faut aimer les dieux, tout son cœur, tout son âme, tout son esprit, tout autrement dit, il ne reste plus rien. Et ensuite, Jésus nous demande d'aimer aussi le prochain. Je ne sais pas comment on fait d'un point de vue purement mathématique, mais ça fait partie de l'arithmétique du bon Dieu. Eh bien, là, c'est la même chose. Le Père Marie-Joseph était vraiment apôtre 100% du tiers-ordre. Et en même temps, il y a d'autres Pères Marie-Joseph. Il y a le Capucin en tant que Capucin, si j'ai bien compris ce que m'a dit un de vous, il n'aimait pas trop perdre aux échecs avec le Père Jean-Pierre. Hein. Il y a le frère, le cousin, l'oncle, il y a deux, trois petits points qui évoquent cela, le desservant de paroisse, l'animateur de retraite, en dehors bien sûr de la fraternité, sans parler de l'homme intérieur du secret du roi. Et là, son autoportrait, ce sont ses pires témoins, essentiellement, encore une fois, à travers la vie de la fraternité et du tiers-ordre de l'OFS, mais donc ses pires témoins au fil des ans de sa vie dans le Christ, de sa relation filiale à la Vierge Marie, de décennies de compagnonnage avec Saint François, les saints de la famille franciscaine et les autres. Et il y a des dizaines de pages, bien sûr, dans le livre qui y sont consacrées. Dans cette première partie, il y a aussi un chapitre sur le Père Marie-Joseph artiste, compositeur, musicien, d'autres formes aussi, il avait, très bref, mais les contraintes éditoriales et essentiellement le souci de ne pas ruiner nos frères et sœurs de la fraternité rendaient impossible ni un cahier photo, enfin du moins n'ont pas rendu possible, plus précis, malgré notre souhait, un cahier photo et encore moins un cahier partition ou un CD, un DVD, comme ça se fait des fois, conjoint à un livre. Hein, sinon, le prix aurait été absolument prohibitif. Mais vous pouvez vous procurer les CD, les DVD, à défaut des partitions, au cas où vous ne les auriez pas déjà. Que cette vaste palette de moyens divers ne vous trompe d'ailleurs tout. Ne vous trompe pas, diversité des moyens, mais unité de contenu et de but. Je ne sais plus qui a défini le génie par la monomanie, à savoir n'avoir qu'une idée puis revenir toujours. Le père Marie-Joseph fut un génie, un monomaniaque de l'amour de Dieu dans les deux sens. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait le père Pio ce matin. Et n'est-ce pas ce dont nous avons le plus besoin dans un monde qui s'en éloigne tellement rapidement, dans lequel, un monde dans lequel les gestes et les vécus de la foi en Dieu n'ont plus, quasiment plus, de support social ou culturel, et ne peuvent donc tenir que sur leur fond propre, hein. Et en ce domaine, il est étonnant de voir que cet homme qui, en fait, vivait encore dans un milieu très largement chrétien de part et d'autre de la rue du couvent, hein, donc il était d'un côté ou de l'autre, eh bien, cet homme réponde à nos questions actuelles de ce monde que je viens d'évoquer. Pourquoi ? Eh bien, je pense parce qu'il s'est vraiment centré sur les questions essentielles de l'homme de ce jour, comme de celui d'il y a un siècle, ou d'il y a 20, ou même avant, à savoir les questions essentielles que sont l'amour, la confiance, la souffrance, la mort, le sens. Et ces questions, il les a portées constamment devant Dieu. Questions qui, à mon avis, toute petite parenthèse, sont autrement plus importantes que de savoir, comme on le faisait en page 1 de la presse internationale, le jour où j'ai terminé la préparation de cet entretien, de savoir si Madame c'est B.S. portait ou non un soutien-gorge sous sa robe en descendant l'escalier de l'Élysée, puisque c'était ça le grand thème du jour dans la presse internationale, d'ailleurs le même jour, mais en bref, on signalait que 500 chrétiens avaient été massacrés au Nigeria. Oui, revenons aux questions quand même nettement plus essentielles. Et pour revenir au livre surtout, à la fin de cette première partie, j'ai mis quelques prières, souvent jaillir de son cœur au cours d'un enseignement ou d'une homélie, plutôt que composer comme tel. Et donc, ils sont à la fois un enseignement priant et une prière enseignante. Jésus, tu sais tout. Tu sais bien que mon cœur et que le cœur de chacun de tes enfants ici présents veut t'aimer. Vois notre bonne volonté. Encore un des mots-clés du vocabulaire du Père Marie-Joseph et de à travers son vocabulaire de son cœur. Vois notre bonne volonté. Des fois, lui, la voyait mieux que nous, la nôtre. Fais-nous cette grâce de nous enflammer de ton amour. Cœur sacré de Jésus, brûlez nos cœurs au feu du vôtre. Passage du tu ou vous, ça aussi, très caractéristique. Marie, mère du bel amour, purifie-nous, purifie nos âmes. Oui, là-dessus, le père Marie-Joseph était quand même un peu à l'inverse de la façon de prier aujourd'hui, où on dit tu au père et vous à la maman, qui est toujours quelque chose, moi, qui m'a toujours un peu surpris, mais bon, je ferme la parenthèse. Purifie-nous, purifie nos âmes, purifie nos cœurs, encourage, fortifie notre sainte audace de nous attacher dans la foi, dans la simplicité, dans la confiance, de nous attacher à Jésus, ton divin Fils. La deuxième partie, un apôtre, 100%, on l'a déjà dit, un apôtre du tiers ordre franciscain. En rigueur de terme, je devrais dire un apôtre de l'OFS, mais comme le père Marie-Joseph, si mes calculs sont bons, a vécu en gros les 5/6 de sa vie quand l'OFS s'appelait encore le tiers ordre, que bien sûr l'appellation dans les esprits, sinon dans les papiers, n'a pas changé comme ça du jour au lendemain, pas aussi simple, le terme correspond peut-être mieux à ce qu'il a vécu. Mais ne voyez donc dans son utilisation aucune nostalgie, simplement peut-être un petit souci de couleur du temps, je dirais. Un an après son ordination sacerdotale, alors qu'il poursuit des études à Toulouse, ses supérieurs demandent en mars 33 au jeune père Marie-Joseph de les interrompre pour rentrer dans l'Est de la France, où il y a des besoins de formation pour des jeunes frères au Studium des Capucins de Beach. Et tout en exerçant dans le diocèse de Metz un service comme confesseur, comme prédicateur en paroisse, il enseigne jusqu'en 1936 l'histoire de l'Église, il dirige la chorale, etc., le chœur, pardon, des frères. Mais à la Noël 1934, on lui demande de succéder à un autre père comme assistant de la petite fraternité tertiaire, alors réduite à une douzaine de femmes âgées et malades. Et il écrit à sa sœur Hazel le 10 mars 1935, donc 2 mois et demi après, « Il me semble que le bon Dieu veut faire beaucoup de bien par moi. On m'a nommé directeur du tiers ordre. Un très vaste champ d'apostolat. Il me faudra de la sainteté, des forces et du temps. De la sainteté, des forces et du temps. Un immense désir me dévore d'accomplir ce que je voudrais appeler ma mission, conquérir beaucoup d'âmes au Christ de l'âme franciscaine et fonder, soutenir, lancer tout un groupe d'apôtres 100% du tiers-ordre. On est à nouveau dans le 100%. Hein. Et il se consacre désormais, donc nous le savons tous très largement, au ministère qui devait devenir celui de toute son existence. Comment pourrait-il en effet se résigner à voir l'ordre franciscain séculier, le tiers-ordre ne rassemblait là que quelques personnes âgées, dit sans minimiser leur rôle, vous allez le voir dans quelques instants. Il faut bien le noter, l'apostolat du tiers-ordre n'a pas été un choix du père Marie-Joseph. Hein. Ça a été une obédience, une obéissance à la fois à un ordre, à une tâche donnée par un supérieur. Hein. Près d'une vingtaine de fois dans le livre, enfin du moins dans les extraits qui sont dans le livre, il a fait bien plus souvent, le père Marie-Joseph demande l'obéissance. Il sait de quoi il parle, hein, et combien l'obéissance intelligente aux événements qui sont nos maîtres, et en particulier à travers la voix de nos supérieurs, les événements qui sont nos maîtres, ça c'est du Saint Vincent de Paul, peut être féconde quand elle est assumée par la liberté. J'ajoute qu'il serait d'ailleurs regrettable. Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, j'ajoute à propos qu'il serait fort regrettable que ce livre donne une image faussée de la fraternité de Beach à l'époque du père Marie-Joseph. Comme il est clairement indiqué, il n'est question ici que de son enseignement et de sa direction. Oui, une image faussée dans le sens où ce n'est que du père Marie-Joseph. Encore une fois, ça n'est pas une biographie. Et donc, le père Marie-Joseph évoque de temps en temps des échecs, des difficultés, des incompréhensions, mais il avait une grande pudeur là-dessus. Et donc, la biographie, certainement, donnera une image plus complexe à l'image de la réalité de la vie, hein, de toutes ces années. Hein, c'est important pour cela qu'on ait une biographie très rapidement, hein, mais les textes du père Marie-Joseph, on ne peut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Cet apostolat du tiers-ordre franciscain, dans la continuité, se fait donc sur un certain nombre d'intuitions de base, et cette continuité est quasiment 60 ans, et non moins impressionnante que la continuité dans sa spiritualité. Sa vision du tiers-ordre puis de l'OFS va s'enrichir de l'expérience accumulée, et je pense, là aussi c'est la biographie qu'il dira, ou des études plus spécialisées, que ça va s'enrichir surtout dans la relation avec les personnes en tant que personnes, hein, de tout cette accumulation d'expériences et d'expériences priées et vécues dans leur raison. Mais ici aussi, je pense que l'essentiel au niveau des directions est déjà non seulement vu, mais mis en œuvre dès les débuts, dès les années 30. Il dit, je cite, « La vocation entrée dans le tiers-ordre reste une grande grâce pour toute personne sans exception, y compris pour les dames d'un certain âge. » Je me tourne vers Catherine, mais... Là, et il n'a pas dit pour les messieurs, mais je me regarde aussi. Elles non plus ne sont pas exclues. Hein, donc, c'est clair. Hein, elles aussi peuvent réaliser de grandes choses. Hein. Bon, là. Mais, il y a quand même un mais, si le tiers-ordre doit pouvoir remplir sa mission, s'il doit en particulier pouvoir répondre aux attentes des papes des 50 dernières années, s'il doit amener la réforme, le salut du monde, c'est pas des petites ambitions, alors il faut en finir avec la conception qui dit « on entre dans le tiers-ordre quand on vieillit ». Le mot d'ordre qui serait à lancer, nous l'avons fait ici à Beach, car ce mot d'ordre correspond totalement à la pensée de l'Église, hein, toujours le souci d'inscrire une action dans ce qu'est la pensée, la volonté de l'Église de répondre à un moment donné, dans une condition, un temps donné, temporalité donnée au plan de Dieu sur l'homme. Car ce mot d'ordre, je reprends Père Marie-Joseph, correspond totalement à la pensée de l'Église et de tout tertiaire avisé. Donc autrement dit, tout tertiaire avisé à la pensée de l'Église, partage la pensée de l'Église. Tout homme et toute femme tertiaire, tout tertiaire avisé, tout homme et toute femme tertiaire d'un certain âge, salue avec joie ce mot d'ordre bien compris. Le tiers ordre est pour tout, mais particulièrement pour les hommes et pour les jeunes. Hein. Autrement dit, nous, les vieux, on a encore notre place dedans, mais particulièrement, hein, pour les hommes et pour les jeunes. Je laisse à tel spécialiste en Marie-Josephologie, pourquoi il n'a pas dit pour les hommes et les femmes et pour les jeunes, mais bon, je continue. Les hommes et les jeunes n'ont-ils pas tout particulièrement besoin du Christ, Ils pourraient dire le contraire. Ne devraient-ils pas surtout être des hommes livrés au Christ? Les jeunes ont à construire leur vie, il faut qu'ils la construisent sur le seul fondement solide, le Christ. Ils auront un jour à fonder une famille, donc la famille là aussi est dès le départ. Or le salut du monde dépend surtout de la guérison, de la sanctification de la famille. Ça c'est les années 30, hein. En 92, début 93, il disait exactement la même chose, avec encore une fois 60 ans d'expérience entre temps, et Dieu sait s'il y a eu de l'expérience de réalisation de la fraternité, et même bien au-delà, avec une influence certaine de sa part, mais le salut du monde dépend surtout de la guérison, donc déjà une famille malade, et la sanctification, ça c'est pour tous les temps, de la famille, peut-être tous les temps la guérison aussi. Un idéal, on se le forge avant tout durant la jeunesse. Ensuite, les actes. Là, il y a une centaine de pages dans le livre qui montrent comment, et à travers la voix du père Marie-Joseph lui-même, comment naissent dès les années 30, puis se développent sur 6 décennies et jusqu'au dernier mois de sa vie, ces grandes intuitions pour la fraternité franciscaine, pour l'OFS. Un chapitre montre que c'est un choix pour toute une vie, les combats du père Marie-Joseph pour défendre l'engagement. La sainte profession franciscaine séculière sont connues, ils sont mentionnés d'ailleurs, mais pas trop développés, parce qu'il fallait que le livre soit quand même limité, mais ce qu'il écrit et prêche permet d'en comprendre le sens. L'appel universel à la sainteté rappelé par le Concile Vatican II brûlait déjà le cœur de saint François bien avant Vatican II, et celui du père Marie-Joseph un petit peu avant, qui... François et Père Marie-Joseph, en le suivant, ont ouvert une voie à la fois purement évangélique et de sanctification et spécifique. L'appel de François trouve un profond écho dans le cœur du Père Marie-Joseph dès le début de son ministère. La sainteté doit devenir le chemin de tout baptisé, et François peut y aider de façon toute particulière. Un autre chapitre donne un exemple concret d'emploi du temps du père Marie-Joseph comme assistant spirituel et âme de la fraternité, du temps employé mais surtout donné, mangé, voire dévoré. L'enseignement y occupe une place importante, non seulement par la fréquence et la durée des homélies, des enseignements, des animations, des réunions, des retraites, des récollections, des pèlerinages, mais aussi par celle de leur préparation. Attentive, priante, même lorsqu'il disait tout à fait autre chose que ce qu'il avait préparé. La préparation était, comme là d'ailleurs, illustrant dans le cas du père Joseph, la bonne règle de toute homélie. Les prêtres ou autres prédicateurs parmi nous le savent que l'homélie c'est 95% de transpiration et 5% d'inspiration, mais qui fait toute la différence au moment de l'homélie. Les contrepoints de cela... aussi ce rôle de la prière, cette fécondité spirituelle du père Marie-Joseph se bâtit dans le face-à-face avec Dieu, comme en témoigne en particulier soit des confidences, mais ça sera dans la biographie, confidences orales, soit des lettres personnelles qui nous sont parvenues. Mais aussi, en contrepoint de cette vie de prière intense, et là, le père Marie-Joseph est un bon fils de saint Maximilien Marie de Kolb, un sens aigu de l'organisation, qui se manifeste lui aussi dès les premières années de son ministère. Il édifie des bases qui demeurent solides 3/4 siècle plus tard, des cercles, c'était le mot de l'époque, mais les mots changent, on passe d'un cercle à un groupe, à une cordée, peut-être demain autre chose, mais le sens fondamental est le même, des cercles d'adolescents, de jeunes foyers, en mettant l'accent bien sûr sur la famille pour eux, avec 30 ans d'avance sur les grands développements de cet apostolat dans toute l'Église, mais aussi des prêtres, des consacrés. Beaucoup donc s'engagent à vivre l'Évangile à la suite et dans la famille de saint François à son appel. Dès 1936, il organise du 14 au 17 mai la première retraite pour le tiers-ordre, plus de 100 participants. Il note la même année, signe de son attention non seulement au recrutement mais encore plus à la formation, « Quel bonheur, nous avons déjà 400 livres dans la bibliothèque, 300 pour la seule année présente ont pu être achetés. » Il supplie surtout le Seigneur de lui donner des hommes jeunes. Et l'année d'après, 37, il aura déjà 24 entrées en fraternité, dont 4 hommes jeunes. La fraternité se procure aussi, là aussi dans la filiation, je dirais, même si vous ne connaissez peut-être pas à l'époque, mais au moins parce que c'était vraiment la même époque, dans la similitude avec saint Maximilien Marie. Il se procure un appareil de projection, il commence à acheter des films, donc ça, encore une fois, dans le milieu des années 30, les premiers films étant sur le sens de l'Eucharistie et sur l'Église. Aussi dans les débuts, et là avec X années, enfin au moins 20 ans, je pense, oui, au moins 20 ans d'avance sur Mère Teresa, le Père Marie-Joseph met au cœur de son apostolat les malades et les âmes de prière, et les malades qui prient, bien sûr. Il écrit en 1938, « Il faudrait tout faire, tout entreprendre pour que nos tertiaires le deviennent 100%. » Je reviens pas dessus. Les grands ouvriers de cette formation interne, les artisans de cette vie des âmes, sont les souffrants et les priants. Cet apostolat est assuré. Sur la suggestion de l'une de nos tertiaires, nous avons pu former un petit groupe spécial composé de tertiaires plus ou moins malades. Tous les mois, le directeur leur donne un petit mot avec une intention spéciale. Exactement ce que Mère Teresa fera à travers le monde entier avec ses groupes de priants, Jacqueline de Decker. Un chapitre entier du livre, ensuite, est consacré à ce que le Père Marie-Joseph appelait lui-même les bienheureux pèlerinages. Celui d'Assise, d'abord, et pas seulement à cause d'être Gelati, je dis ça parce que certains en parlent déjà dans la perspective du mois d'août, mais Assise, Rome, Jérusalem. Dès 1936, il organise un premier pèlerinage qui est à Weiler, un peu plus près quand même, mais premier pèlerinage à pied. Et je préciserai ensuite la suite qu'à mon avis il faudrait donner à cette anthologie, mais je peux vous dire que les écrits ou enregistrements liés au pèlerinage peuvent faire la manière d'un gros volume et peut-être même de plusieurs. Et non seulement ça sera d'excellents guides touristiques spirituels, c'est assez à la mode aujourd'hui, mais des guides spirituels tout court pour le pèlerinage intérieur. Pour le livre, j'avais hésité entre présenter un des pèlerinages dans son entier et puis mettre des extraits de plusieurs. Bon, j'ai fait le second choix, mais l'autre aurait été bien sûr tout à fait justifié, puisque j'avais à peu près une trentaine de pages pour ce chapitre. Ensuite, ne voir que cet aspect, comment dirais-je, public de l'apostolat franciscain du Père Marie-Joseph serait le réduire tout à fait indûment. Ce grand prédicateur était aussi, pour ma part, mais chacun a son expérience personnelle, c'est peut-être surtout la mienne, il était surtout un confesseur, un guide personnel, un père spirituel. Il s'agit dans ce domaine d'avoir beaucoup de tact et de discrétion, surtout quand des personnes sont encore dans ce monde, mais nous disposons, surtout pour la première période de sa vie et de son apostolat, des lettres de direction spirituelle à sa sœur et à d'autres, et donc le dernier chapitre de cette deuxième partie, une trentaine de pages, est consacré à cette dimension, le titre dit ce qu'il y a dedans, l'âme parle à l'âme, le Père Marie-Joseph comme père spirituel. Certaines paroles du père à l'une ou l'autre des dirigés, des personnes concernées, pourront paraître dures. C'est peut-être paraître et peut-être aussi trop. En ce domaine, comme d'ailleurs, si sur le fond la spiritualité du père Marie-Joseph est tout à fait en consonance avec la spiritualité renouvelée de la vie franciscaine à la lumière de Vatican II, il demeure un homme de son temps, on a évoqué ce matin sur la discipline, mais dans ce domaine aussi, il faut tenir compte de la date de ce qu'on lit, bien sûr. Mais surtout, il faut savoir, ça n'apparaît pas dans le livre, parce que là c'est une parenthèse, mais peut-être même que j'ai quand même mis une petite phrase dessus, je ne me souviens plus, comme nous savons grâce à de nombreux témoignages, et ça la biographie le montrera mieux, dont ceux de plusieurs parmi nous, que la direction spirituelle du Père Marie-Joseph était très diversifiée, comme toute direction spirituelle qui se tient, elle était à la carte, il faut le dire. Quand, là aussi, avec tout le respect qu'on se doit les uns aux autres, quand nous échangions les uns avec les autres, pas un secret de dire qu'il y en a qui trouvaient qu'il était comme un peu trop dur, et puis d'autres qui trouvaient qu'il était un peu trop doux. Donc là-dessus, je signale quand même deux limites de l'anthologie. Les correspondances de l'action spirituelle sont essentiellement d'avant-guerre, et donc là aussi ça peut fausser toute la direction qu'a pu faire le père, mais là aussi encore une fois la biographie, parce que ça sera de l'oral, enfin de l'oral transcrit, pourra non pas rectifier, mais enrichir toute cette dimension tellement essentielle de sa vie de père et de père spirituel. Et d'autre part, elles sont adressées à des consacrés, alors que statistiquement parlant, il y avait plus de laïcs que de consacrés qui ont bénéficié de son accompagnement spirituel. Donc là aussi, la biographie élargira. Troisième partie, toujours dans les temps, c'est la plus longue et elle présente l'enseignement du Père Marie-Joseph de façon thématique, liée au fait que je disais tout à l'heure que l'essentiel était déjà dès le départ, et aussi, ça c'est Jean-Paul qui l'a dit, que les thématiques d'enseignement sont extrêmement liées les unes aux autres, hein, et donc le choix d'une chronologie, on serait très rapidement perdu. Hein. Donc j'ai préféré prendre l'enseignement thématique, des fois des textes qui font plusieurs pages, mais la plupart du temps des textes assez brefs, hein, et à travers cet enseignement, bien sûr, on voit sa spiritualité, et le mot n'est pas trop fort, sa mystique, je veux dire sa proposition de vie dans le mystère de Dieu et du Christ. Le père Marie-Joseph, c'était écrit avant que je n'écoute ce matin le père Pio, le père Marie-Joseph a d'abord été un chercheur amoureux du mystère de Dieu, du Dieu toujours plus grand. Et ces pages proposées dans cette anthologie témoignent de son émerveillement face à la vie d'amour trinitaire, face au mystère de la paternité divine qui nous aime, face au mystère du Christ qui nous aime, face au mystère de la fécondité de l'Esprit qui nous aime. C'est à pleurer de joie. Ce n'est pas du sentiment. Alors aussi, tellement, Père Marie-Joseph. C'est à pleurer de joie. Ce n'est pas du sentiment. De voir le bonheur que nous avons, que nous sommes aimés de Dieu. Une femme oublie-t-elle son enfant? Chantez, hein. Là, c'est impensable. Mais c'est encore infiniment plus impensable que Dieu nous oublie. Et si je dis Dieu, vous le savez bien, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. C'est la très sainte Vierge Marie, c'est toute la famille de Dieu. Hein, là, sinon, on peut avoir des hérésiarques ou des hérésologues qui disent « Oh là, qu'est-ce que c'est que cette quadrinité ?» Alors, c'est toute la famille de Dieu. Hein. Ah, que nous sommes heureux. Un autre exemple, j'ai gardé la fin qui s'écarte de notre thème présent, mais tellement caractéristique de lui. Je vous dis très souvent, une petite fleurette de rien du tout, une brindille, me parle du bon Dieu. Surtout quand il y a un brin de soleil là-dessus. Hein. C'est beau, toutes ces brindilles, c'est rien du tout. Que le bon Dieu est sage, qu'il est bon, qu'il est beau. Ô mon Dieu, ayez pitié de moi, donnez-moi de vous aimer, j'ai confiance en vous. Voilà la prière. Ô mes enfants, ayez donc tous les diplômes que vous pouvez avoir. Si vous n'avez pas le diplôme du bon Dieu, c'est-à-dire le diplôme qui vous garde le bon sens, un esprit, un cœur ouvert à Dieu, alors vous êtes à plaindre. Même si vous gagnez une belle somme d'argent jour par jour, même si vous êtes un professeur avec toutes sortes de diplômes, pour ajouter entre parenthèses, y compris en Marie-Joséphologie, je reprends le père Marie-Joseph, vous savez bien que je ne suis pas contre la science. Au contraire, je suis un assoiffé de science. Et ceux qui l'ont connu avec son armoire et tout ça savent que c'était vraiment ça, et la bibliothèque, mais non pas contre une certaine conception, ça c'est différent. Il nous faut Jésus, rien que Jésus, tout le reste par amour pour Jésus. Il n'y a pas de Jésus. Et s'il est vraiment présent, c'était Jean-Baptiste hier qui disait qu'il n'y avait pas 2000 Jésus, je ne sais plus qui le disait hier. Là, le père Marie-Joseph se contentait de deux. Il n'y a pas de Jésus. S'il est vraiment présent chez moi et chez toi, c'est là un très profond mystère. Mais il s'ensuit, puisqu'il n'y a qu'un seul Jésus, que nous sommes parés en lui, unis très étroitement. Dernier exemple qui témoigne aussi d'une autre direction du père Marie-Joseph. Ce grand lecteur faisait sans cesse partager les trouvailles de ses lectures. Et là, je dis d'ailleurs, avec un appel à recherche éventuelle, à plus d'une fois, il m'a fallu faire un espèce de travail d'archéologie, surtout bien sûr pour les textes oraux, donc les enregistrements, pour déterminer qu'est-ce qui était Marie-Joséphien ou JMJiste, qu'est-ce qui était cardinal de Courtrai, pape Jean XXIII ou Paul VI ou Jean-Paul II, tellement c'est des fois tellement imbriqué l'un dans l'autre. Hein, et je ne suis pas sûr que j'ai tout retrouvé, je suis même presque sûr qu'il y en a quelques passages où le père prenait ce qu'il avait sans doute sous les yeux et où à l'enregistrement on ne sent pas quand est-ce que ça s'arrête, qu'est-ce qui est de lui, etc. On trouve dans un, cite le père, on trouve dans un petit livret intime ce mot d'un jésuite. Alors, là aussi un autre échec de ma part, j'ai toujours pas retrouvé qui était ce jésuite. Jésus, faites en mon cœur une blessure qui ne guérira que lorsque je serai devant vous au ciel. Quelle prière, quelle prière, quelle bonne blessure. Mes enfants, je prie, je vous souhaite de tout mon cœur de prêtre que vous ayez tous, chacun, chacune, un cœur blessé par l'amour de Jésus. Que vous ne puissiez plus vivre sans cet amour jusqu'à ce que vous serez devant lui au ciel. Autre chapitre, l'enseignement sur l'abandon à la Sainte Vierge, la consécration à la Sainte Famille, qui lui aussi méritera à lui tout seul un livre, d'ailleurs en partie déjà en cours de réalisation. Le père Marie-Joseph a tellement aimé prier la Vierge Maman et son amour filial est non seulement lyrique, c'est René Lejeune qui le disait ici même en 2003, mais il est aussi contagieux. Déjà 18 ans, avec Marie, il nous faut faire comme nous l'avons fait avec notre mère. Il allait tellement de soi que nous soyons pleins de confiance, d'amour envers elle. Nous pouvons avoir la même simplicité d'enfant dans nos relations avec Marie, notre mère céleste, et même une simplicité plus grande encore. Elle le souhaite, elle le veut. Il faut que notre chère mère connaisse notre cœur tout entier, avec toute sa pauvreté, sa misère, ses désirs, son amour, avec tous ses secrets, avec tout ce qui l'agite. Dans le cœur de Marie, nous trouvons le cœur de Jésus. Que voulons-nous de plus ? 67 ans plus tard, quelle joie doit faire à la très sainte Vierge Marie, cette maman au cœur si délicat, si sensible, la bonne volonté que nous avons tous, qui est si bien exprimée par le chant de nos jeunes, « Réjouis-toi ». Un enfant se réjouit avec sa mère, et c'est ainsi que nous voulons nous réjouir avec elle de tout ce que le bon Dieu a fait en elle et par elle, tout ce qu'il continue à faire. J'aurais aimé continuer à partager avec vous certaines des perles des chapitres suivants qui représentent de fait un bon 40% du livre et qui sont toutes consacrées aux aspects du vivre chrétien avec le Père Marie-Joseph à partir de son enseignement. Je ne pourrais pas le faire d'abord parce que les minutes continuent à passer, mais aussi parce que c'est peut-être là où c'est le plus organique, c'est le plus difficile de dire je prendrai sur les X thèmes, 10 ou 20 ou 30, j'en prendrai que 4 ou 5. Hein. Là, vraiment, tout se tient, les dimensions catéchétiques, les dimensions théologiques, les dimensions spirituelles, les indications concrètes, précises, réalistes, tout se tient et, encore une fois, ça fait 40%, donc ça fait un bon 200 pages, à peu près, pas loin de 200 pages dans le livre. Il faut vraiment les lire et les revoir, et nous savons tous combien organique, oui, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cet enseignement. Dans le contexte actuel, où la question de l'identité est au cœur des débats en tout genre, politique, on le sait, mais aussi religieux, vous n'avez qu'à lire dernier écrit important de l'épiscopat français, eh bien, je pense que ces pages nous aident à définir, surtout à vivre, cette identité chrétienne et catholique qui était au cœur des discussions donc de la dernière assemblée des évêques à Lourdes et du livre de Mgr d'Agens. Je me contente donc des titres simplement. Vivre en chrétien avec le Père Marie-Joseph, foi, espérance, charité, prière et sacrement, quand viennent les épreuves, s'engager, fier de tous, de tout le reste, un apôtre de la famille chrétienne, spiritualité et engagement, toutes les dimensions de soutien aux AFC et d'autres initiatives. Et là, des paroles, elle est quand même une ligne. Quand quelqu'un se marie, si c'est pour un petit amour égoïste, jouisseur, refermé sur soi-même, où l'on vit côte à côte, au lieu de faire le don dans l'amour de Dieu, selon sa volonté sur soi, mutuellement, ne construira jamais, hein, rien de sérieux comme famille. Tandis que lorsqu'il a l'idée de grandeur que le Saint-Esprit donne, une famille c'est énorme, mais énorme. Et après il parle, il ne va jamais à Lourdes, mais ça a été évoqué sur la tombe des parents et d'autres lieux. Enfin, le chapitre de conclusion, d'être la joie de Dieu, est la reproduction in extenso de textes dont plusieurs ont été dits et redits, et c'est très bien que le bon Dieu m'appelle maintenant ou plus tard, je ferai chanter mon testament. D'ailleurs, je m'en dis et redis, mais chanter aussi hier soir au cours de la veillée. Hein. Non, chant du signe, hein, au sens propre du terme. Hein. Vous savez qu'au Moyen-Âge, bon après ils ont dû se fâcher, mais les signes chanter avant de mourir, quand on savait encore les écouter, hein, donc le chant du signe au sens propre, à la fois document spirituel, aussi extraordinaire qu'émouvant que sur un homme de Dieu, au soir de son existence terrestre, et magnifique synthèse de son enseignement, et c'est pourquoi c'est in extenso dedans. Le Père Marie-Joseph commence à s'adresser au JF, il leur dit « Rien de plus beau, de plus bénéfique pour votre âme que de vous rencontrer entre jeunes chrétiens, mais comme tout cela a été dit et chanté encore une fois hier, ça me permet d'aller un peu plus loin. C'est bien un juste titre, je pense, enfin j'en suis même sûr, que Cardinal Schönborn insiste sur le devoir de faire connaître cet enseignement. Il écrit « C'est seulement après la mort du Père que j'ai commencé à découvrir, ou il dit, je ne sais plus très bien, par les écrits, par les petites fiches d'extraits de lettres, de causeries, de sermons, qu'il a une parole très forte pour l'Église, qui vous est donnée à vous, mais aussi pour toute l'Église. » Et il ajoute « J'ai l'impression que d'une certaine façon, cette parole est venue encore plus forte par l'écrit, il continue à vous nourrir, n'hésitez pas à vous nourrir de sa parole. » Et pour conclure sur le livre, avant de passer à la deuxième partie, je vous rassure qu'elle est beaucoup plus courte, je voudrais partager tout simplement ma réponse à une question, un certain nombre d'interviews, radio ou presse sur le livre, Être la joie de Dieu, et de façon ou d'une autre, on m'a demandé comment vous le voyez, le Père Marie-Joseph, hein. Et bien sûr, j'ai toujours dit que je le voyais non seulement à travers ce travail, mais aussi à travers celui que j'avais connu pendant de 80 à 93, hein, qui était le Père Marie-Joseph pour moi, à première vue, un capucin d'image pieuse, une barbe, la bure, il manque la calotte, notre Père Pio, hein, comme les saints Padre Pio, je parle de l'autre, Léopold Mandić ou le bienheureux Conrad de Parzam, sans mimétisme, hein, parce qu'à 25 ans, il était déjà comme ça avant qu'on parle d'eux. Intérieurement, un amoureux de Dieu, un marqueur de l'invisible. Pour lui, il n'y avait pas un Dieu, mais il y avait le Père, le bon Dieu. Il n'y avait pas un sauveur ou un modèle, mais Jésus. Il n'y avait pas une mère du Christ, mais la maman du ciel. Il n'y avait pas des noms sur un calendrier, mais François, Claire, Thérèse, Bernadette et tous les autres qu'il m'a fait connaître et aimer. Pour lui, comme pour François, comme pour tous les saints d'ailleurs, Dieu n'était pas une idée, Dieu n'était pas un idéal, il faut être clair là-dessus, mais quelqu'un vivant, agissant et surtout nous aimant. Et si la foi est toujours de quelque façon obscure, cette obscurité, avec lui on sentait qu'elle était que l'ombre de la main de Dieu qui se pose avec tendresse sur nous. Et de même que le Père Marie-Joseph ne s'adressait jamais, de même qu'il ne s'adressait, il ne parlait jamais d'une idée de Dieu, il ne s'adressait jamais à un auditoire théorique ou abstrait, mais toujours à des personnes. Cela, le livre le montre, tout simplement, parce que nous, à part quelques articles de revue, où là, les personnes sont quand même plus lointaines et plus abstraites par la force des choses, c'est quasiment tous les documents présentés ici sont adressés à X ou à Y, à un tel ou à une telle, ou à un groupe de la fraternité ou d'autres, et qu'il nous parle de Dieu, du Christ, de la Sainte Vierge, de François, de Thérèse, ou de l'OFS, ou de la prière, toujours s'adresse à des personnes, et des personnes qu'il connaît, là aussi quasiment tous les cas. Et ce qui pourrait être une limitation terrible se révèle, en fait, comme toutes les grandes œuvres d'ailleurs, secret de Polichinelle, dans la réflexion philosophique sur les grandes œuvres, c'est, les grandes œuvres sont jamais des œuvres générales, au sens de généralisation, c'est toujours l'universel et l'éternel se voit à travers le concret et le personnel. Ce qui pourrait être une limitation se révèle une force à travers ce réseau, sa sœur ou les jeunes d'un groupe à qui une parole est d'abord adressée spécifiquement pour eux, pour leurs problèmes d'un moment, d'un temps donné. Eh bien, celle-ci nous rejoint et appelle une réponse comme la parole de Saint François, dont là il se révèle tout à fait un fils. Et de même que la fraternité de Bitche qu'il a fondée continuer de se développer après sa mort, et que beaucoup, sans l'avoir connu, ça aussi était dit, mais je le répète parce que je l'ai sous les yeux, sans l'avoir connu de son vivant, y bénéficient à leur tour de sa paternité spirituelle et de son charisme franciscain, et qu'ils ont quelque chose de spécifique à apporter, eh bien, mon seul souhait, préparant ce livre, a été que cette mission se poursuive, hein. Qu'est-ce qui pouvait bien faire courir, qui fait toujours courir, vous êtes là, dans une petite ville au nom ignoré de bien des Français, un archevêque polonais, un marin camerounais, un haut fonctionnaire de Genève et un mineur des Houillères, un agriculteur universitaire, un futur cardinal autrichien, un philosophe anglais, quelqu'un qui était amoureux de Dieu et contagieux. Bref, avec lui, nous avons appris qu'être la joie de Dieu par la confiance et l'amour, là c'est les deux livres bien sûr, mais tellement, c'est aussi un des titres possibles du livre, mais comme il existait déjà, je ne l'ai pas repris. Être la joie de Dieu par la confiance et l'amour à la suite de Saint François, c'est une belle aventure. Je passe à la deuxième partie, beaucoup plus brève, je l'ai dit, il me reste un tout petit quart d'heure. Cet entretien, donc, étant le dernier, ressaisissez ce qui a été partagé depuis vendredi soir, il faut aussi un peu ouvrir vers l'avenir. Dans cette seconde partie, du moins la première partie de la seconde partie, si je peux dire, ce que je veux dire n'engage que moi, et la responsabilité de la mise en œuvre de cet avenir incombe à l'Association de la Providence, sagement conduite par Jean-Paul, à qui je m'en remets en toute confiance, hein. Donc ça n'engage que moi, ce que je veux dire. D'abord, quelques évidences qui vont sans le dire encore mieux en le disant. Achetez le livre si vous ne l'avez pas encore fait, et non seulement mettez-le dans votre bibliothèque, mais ouvrez-le, lisez-le, nourrissez-vous-en. J'ai déjà dit que les droits d'auteur, c'est pour, enfin, pour la Providence, donc mon conseil est désintéressé, hein. Et ça, c'est la première chose. De même pour la diffusion du calendrier, aller faire un tour sur le site internet, les CD, les images, les tracts, enfin, tout ce qui nous, tout ce à travers quoi le Père nous parle et peut nous aider à accéder à lui. Ensuite, l'édition complète des écrits et l'intervention du Père Marie-Joseph sera un travail de longue haleine dont cette anthologie, je l'ai encore dit, n'est que l'appartement témoin. Il y a beaucoup de travail encore de transcription, de collation, travail de type plutôt scientifique là à faire, ce qui n'était pas l'objectif de cette anthologie, mais on peut rêver, voire par l'imagination, dans les bibliothèques de tous les franciscains au FS, à côté du Totum. Là, je crois que ça fera quand même une douzaine de volumes. Hein. Il y a certains types qui sont évidents. La famille, le Père Marie-Joseph parle aux jeunes, la Sainte Vierge, les pèlerinages, la prière du Père Marie-Joseph, où il y a déjà un travail qui est déjà fait, les chroniques, les articles de revue franciscaine, les lettres à sa sœur, les lettres de direction spirituelle, et puis il y a la biographie. La biographie, ça, je crois que c'est la priorité maintenant, comme il ne semble pas, s'il y a des volontaires, ils sont les bienvenus. Comme il ne semble pas que l'un de nous ait la possibilité de s'y engager tout seul dans un avenir proche, je crois qu'il faut envisager un travail d'équipe. J'ai même des idées sur une bonne demi-douzaine de personnes, comme rédacteurs ou consultants, qu'ils soient l'un ou l'autre, ou rabatteurs de témoignages, enfin, quelles que soient les formes, pour travailler sur cette biographie. Mais je crois que c'est aujourd'hui, que c'est maintenant la priorité. Enfin, encore une fois, je donne ça à la sage direction de Jean-Paul. Faut-il évoquer la question de la béatification? Non, en ce sens que la responsabilité de l'engager ou non relève de ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, donc c'est pas à moi de le faire, bien sûr, mais simplement, en tant qu'enseignant la géologie, sous une forme particulière qui est la géologie œcuménique dans une université catholique, je permets de rappeler que le starter d'une éventuelle béatification est toujours la fama, ou la vox populi, comme on dira pour un autre terme plus compréhensible, la voix du peuple, la mémoire du peuple chrétien, et autrement dit, celle de chacun de nous, on en fait partie, hein. J'en dirai pas plus, mais j'aurais simplement ajouté, parce que la question se posera peut-être, ou s'est peut-être posée pour certains parmi vous, un travail biographique n'est pas un travail de la géographie. Je me rends compte dans le moment où j'écris, non pas la géographie, mais la biographie d'un tertiaire franciscain, et j'ai rencontré certaines personnes qui ont eu accès au dossier de la géographie, ils m'ont dit, mais c'est pas lui, c'est des questions sur les vertus, tout ça, mais c'est pas ce qu'on a vécu avec lui, c'était pas la question, elle est pas là, quoi. Donc, c'est bien sûr la même personne, mais de même que entre un géographe, un aménageur de station touristique, un marcheur, un randonneur, ou je sais pas quoi, la même montagne, on va la voir de façon différente, eh bien, la même personne, selon le point de vue dont on l'aborde, on se posera pas exactement les mêmes questions. Donc, il faut aller de l'avant, il faut bien sûr commencer tout de suite. Permettre ces suggestions à Jean-Paul, dès demain matin, préparation des deuxièmes journées Père Marie-Joseph. Là aussi, je pense que ce qu'on a écouté, les trois autres conférences, les trois autres entretiens de ces journées, nous montrent qu'il y a là vraiment une mine et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de galeries à creuser qui nous donneront du métaux précieux. Je ne doute pas que des chercheurs se pencheront un jour sur la vie et la pensée du Père Marie-Joseph pour des thèses, des mémoires, des articles. Il y a de la matière, et vous l'avez montré hier et ce matin. Alors, en attendant une thèse sur l'interprétation marie-josephienne de saint François, ou un mémoire sur les aspects théologiques de la dévotion mariale au XXe siècle à partir de son exemple, et en conclusion, une petite contribution sur un sujet précis, à savoir cinq mots du Père Marie-Joseph, dont deux articles, enfin l'article et une préposition, être la joie de Dieu. Et je conclurai par petite méditation là-dessus. D'abord, est-ce que vous avez idée quand est-ce que vous avez été pour la dernière fois la joie de Dieu? Bon, alors je dis tout de suite la réponse à lui qu'il faut poser la question et non pas à nous, hein. Mais on peut quand même se la poser, hein, je trouve. Bon. Alors par contre, une question qu'on peut se poser chacun à soi. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez été joyeux? Je veux dire, franchement, franchement joyeux. De la vraie joie, celle qui vous tombe dessus, qui vous dilate le cœur et qui peut même pour citer Tolkien, se révéler poignante comme la douleur. Hein. Bon, on va pas se donner 10 minutes pour essayer d'y penser, mais c'est une question qui fait bon de se penser de temps en temps. La joie nous advient avec une coloration si spécifique qu'elle est absolument inconfondable, dit-on en français, oui. On ne peut pas la confondre avec le plaisir. Hein. Paul VI, à propos de notre société, la société technique a pu multiplier les occasions de plaisir, elle a bien du mal à secréter la joie. La joie, d'ailleurs, ne se secrète pas comme la bile ou ne se produit pas comme un véhicule, elle se reçoit, elle est toujours un don reçu qui vous tombe dessus, et c'est pourquoi elle déchire d'une façon ou d'une autre le déterminisme de ce monde. Le déterminisme que nous, on veut imposer à ce monde, et qu'elle tient du miracle, ce qui n'est pas étonnant, parce que la vraie joie vient d'une façon ou d'une autre, vient toujours de Dieu. Elle plonge ses racines dans la mer de toutes les joies, c'est la joie de Pâques, qu'on va chanter dans 15 jours, maintenant, moins de 15 jours, dans l'Exultet, dans les Alléluia, reflet de l'éternelle joie trinitaire de Dieu. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez été vraiment joyeux? Ou bien est-ce que vous avez l'impression que, ça certainement, le plaisir augmente dans le monde, mais que la joie est peut-être en train de déserter plus ou moins les rivages du monde, de ce monde? Et dans ce cas-là, on en porterait la responsabilité, parce que la joie est un don, mais comme tout don, on peut dire oui, on peut dire merci, on peut dire j'en veux pas. Et quand une des grandes dimensions de la vie et de l'enseignement du Père Marie-Joseph a été de nous apprendre à accueillir cette joie et à la refléter, donc à en donner, d'où le titre de l'anthologie. J'avais d'abord pensé l'appeler, même ça apparaît encore dans des versions intermédiaires, « Loué soit Jésus-Christ ». Bon, ça aussi quelque chose qui a déjà été vu, pour toujours ou à jamais, hein, ou reprendre le beau titre par la constance et l'amour. Et puis, un jour, ça s'est imposé, et donc c'est ce titre. « Être la joie de Dieu ». Première réflexion, si nous pouvons être la joie de Dieu, ça signifie tout simplement que Dieu peut être joyeux. Je pense que tous vous avez souvent médité cela. Donc, Dieu peut être joyeux et nous pouvons participer à sa joie, non seulement en la recevant, et c'est formidable, mais nous pouvons aussi participer en la lui offrant. Et, n'est-ce pas quelque chose de magnifique? Dieu n'a en rien besoin de nous pour être joyeux. Mais il veut l'être aussi par nous. Il veut que nous soyons sa joie. Et donc, lui dire tous les jours, comme nous l'avons fait plus d'une fois déjà depuis ce matin, que ta volonté soit faite, veut dire aussi que nous soyons aujourd'hui ta joie sur la terre, comme nous espérons l'être un jour au ciel. Être la joie de Dieu n'est pas une expression propre au Père Marie-Joseph. On la trouve dans la Bible. « Tu seras la joie de Dieu », Isaïe, qui s'adresse à l'Israël eschatologique. Et Jésus précise les choses quand il dit « Entre dans la joie de ton maître à ceux qui ont bien utilisé les grâces reçues, les dons, les talents reçus. » Dieu ne veut pas nous contraindre à être sa joie. Il la laisse à la discrétion de ce que nous faisons. Et de plus, si ces citations d'Isaïe de l'Évangile sont de tonalité eschatologique, nous sommes appelés à commencer tout de suite à être cette joie par notre conversion. Parabole de la brebis perdue, parabole du bon samaritain, parabole du fils prodigue, et d'autres aussi, ou encore quand nous portons des fruits de sainteté, comme Jésus s'en réjouit, quand il voit la joie que tel ou tel de ses interlocuteurs, que les petits en général donnent au Père, et tout ce qu'il dit sur sa joie, justement par rapport aux fruits que donne la vigne, le jeudi saint. L'oubli de la joie à donner à Dieu, et même de la joie de Dieu, voire la dénégation, le refus de celle-ci, sont sans doute parmi les racines cachées, donc d'autant plus fortes, du mal-être de notre temps. Pas chez tous. Et là, j'avais un petit peu transgressé ce qu'avait demandé Jean-Paul, à savoir que nous ne fassions pas de colloque intellectuel. Donc il va y avoir 2 minutes d'intellectualité. Donc un philosophe allemand, d'abord, remarquable, s'appelle Joseph Pieper, qui a écrit des pages très belles, lumineuses, sur la joie en Dieu. « Dieu est heureux d'une joie heureuse, il faut tenir cela face à tout ce qui le nie, sous peine de perdre l'espérance chrétienne. » Car si le bonheur de Dieu dépendait d'un autre, par exemple du mien, comment pourrions-nous être un jour guéris du malheur ? La souffrance, même la plus profonde, celle du mal que subit l'innocent, ne doit pas nous empêcher de voir que la seule espérance qui tienne, c'est justement celle qui se fonde sur la certitude que Dieu est heureux, que Dieu est joyeux, et donc que le malheur n'est pas le dernier mot de tout pour l'éternité. Que Dieu porte en même temps sa part, et quelle part ? Parce que lui est Dieu. Donc la part de souffrance infiniment plus lourde que la nôtre, du poids du mal, du péché, et le porte jusqu'à la croix, sommet de l'anti-joie, est non moins vrai que la réalité de sa joie éternelle, incorruptible, mais il faut tenir les deux. Et puis Père dit que saint Thomas a écrit là-dessus. Alors je suis allé voir dans saint Thomas d'Aquin, en particulier c'est aussi dans la somme théologique, mais dans le Contre les gentils, et ce que j'ai lu m'a un peu coupé le souffle. Pour saint Thomas d'Aquin, Dieu ne possède pas la joie. Dieu est la joie. Dieu est la joie bienheureuse, elle et lui, c'est tout un. C'est la même chose. Conséquence de cela, être la joie de Dieu nous fait participer dans cette joie à son intimité même. De son côté, le père Marie-Eugène évoque plus directement encore l'être la joie de Dieu quand il écrit « Quelle ne sera donc pas la joie de Dieu ?» Quelle ne sera donc pas la joie de Dieu lorsqu'il trouvera une âme qui lui laisse toute liberté, en qui il peut se répandre, toujours le don reçu, selon toute la mesure qu'il désire. Les confidences faites par notre Seigneur à certains saints nous laissent deviner cette joie de Dieu. Père Marie-Eugène, je pense encore à Chesterton, pour qui la joie, y compris cette dimension, qui est la petite publicité du païen, est le secret gigantesque du chrétien, parce qu'elle est échange, commerce avec de lui-même. Ou encore, mais je crois que ça s'arrête là, les citations, oui, à l'homélie inaugurale du pontificat de Benoît XVI, c'était plus quelques jours du mois d'avril, il y a 5 ans maintenant, oui, lorsqu'il parle d'être au service, de servir, je cite, de la joie de Dieu qui veut faire son entrée dans le monde. Le père Marie-Joseph, donc, n'est pas le seul apôtre de l'être la joie de Dieu pour notre temps, mais il l'est aussi, il en est un important, il l'est à sa façon propre, et dans une vie qui a connu autant qu'une autre, je dis bien oui, au moins autant qu'une autre, sa part de lutte, d'incompréhension, d'échec et de rejet, ces témoignages comptent. D'abord, il nous indique, vous avez constaté à travers quelques citations, quelques références, une autoroute pour être la joie de Dieu, la Sainte Vierge. Sauf à la part, du moins dans les textes qui sont là, et tous les textes qui évoquent la joie de Dieu sont tous des textes qui sont dans un contexte, si on peut dire, marial. Ensuite, il montre comment ce désir d'être la joie de Dieu est en même temps une clé de compréhension de qui est vraiment Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, qui se fait mendiant, qui se tient à la porte de la joie que nous voudrons bien lui offrir en lui ouvrant. Il montre aussi, pas étonnant, que cette joie n'est pas d'abord un sentiment, n'est pas un sentiment à ressentir ou à provoquer, mais c'est un acte, un don à faire. Ou encore que cet être la joie de Dieu est indissociable de tout le portrait spirituel du chrétien, du fils de saint François qu'il propose. Autant donc de pistes à creuser, là je le dis très, très rapidement, une étude exhaustive de cette centralité du être la joie de Dieu dans la spiritualité du père Joseph montrerait quel est effectivement ce secret gigantesque dont parle Chesterton, qu'elle couronne tout son enseignement. Ça sonne, donc on n'a plus que 5 minutes au plus. Le père Marie-Joseph a été un apôtre de la joie et un apôtre par la joie. Il nous a demandé, on l'a chanté. C'est ce matin, non ? Oui, on a encore chanté aujourd'hui. J'espère que ce livre en témoigne. Et pas seulement parce que le mot « joie » est dans le titre, mais j'ai fait un bref comptage, l'informatique le permet. Le mot « joie » et les mots de la même famille, l'adjectif, la verbe, le verbe, se retrouvent pas tout à fait une fois par page, mais presque. Plus de 340 fois sur les 400 pages de texte proprement dit. Donc c'est vraiment une dimension, cet être la joie de Dieu, ou toutes les dimensions de la joie, celle de Dieu et la nôtre en lui, vraiment une des dimensions fondamentales et les plus persistantes de l'enseignement du Père. Dès avril 26, il n'a que 19 ans, il écrit à sa sœur sur la joie, sur l'apostolat par la joie, un texte d'ailleurs dont on a fait un des chants de notre fraternité. Pour ce qui est de la joie de Dieu, celle en lui, on trouve des références qui deviennent plus fréquentes dans les années 70-80. En 75, il se réjouit, il se fait le propagandiste, il n'y a pas d'autre mot, de l'exhortation apostolique de Paul VI, ceux qui étaient dans la fraternité à cette époque s'en souviennent. Paul VI a écrit une exhortation apostolique sur la joie chrétienne, hein, et le père Marie-Joseph en parle et j'ai presque dire serine les oreilles des tertiaires de cette époque sur ce texte à lire, à méditer, à étudier, hein. De même, quand il découvre le chant de l'Emmanuel, soyons toujours joyeux, prions sans cesse, en toute chose, rendons grâce à Dieu, là aussi, il n'arrête pas d'en parler quand il le découvre. En 1986, il demande à propos de la Sainte Vierge qu'elle nous donne cette grâce de progresser, de devenir de petits enfants devant Dieu, ensemble. Et à travers nous, toute la fraternité, pour la gloire de Dieu, pour la joie de Dieu, et pour notre propre salut. Et c'est surtout les deux dernières années que le Père Marie-Joseph se fait avec insistance l'apôtre de cette joie de Dieu que nous sommes appelés à être. Ce qui montre d'ailleurs la dimension de récapitulation de cet être, la joie de Dieu, en collection de 1991. Devenir des saints, vous le pouvez, vous le devez, vous le voulez, mais il faut la grâce. « Qui es-tu, ô mon Dieu ? Qui suis-je, moi ?» On a aussi chanté ça ce matin. Et puis, passez, allez chez la très sainte Vierge. Dites-lui, « Maman, 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 regarde ton enfant. Ne permets pas que j'offense ton divin fils. Mène-moi à l'aimer de tout mon cœur, que je devienne vraiment une joie pour Dieu, comme toi, à ton exemple, à ta suite. » Et il se permet d'insister en se mettant à la place de ses auditeurs, mais que je comprenne bien, pour être la joie de Dieu et heureux soi-même, il faut faire la volonté de Dieu. Mois de mars de l'année suivante, quand je suis un petit enfant, je parle à la maman. Je ne prends pas un livre et pour lui lire un texte pour savoir comment parler à ma maman et à mon papa. Le bon Dieu est comme cela, infiniment plus que cela. Nous sommes ses enfants. Alors il faut prier, il faut prendre la foi au sérieux, partir de la foi. Nous sommes ses enfants et chaque enfant est unique. Nous sommes la joie de Dieu et la joie de Jésus, la joie de Marie, quand nous avons un cœur simple, un cœur qui ne complique rien et surtout un cœur qui est franc. Et enfin, lors de la méditation du chapelet de la récollection de testament de la mi-novembre 92, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ma vie dans la condition humaine est une vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Demandons cela dans la troisième dizaine, tous ensemble, et que toute notre fraternité soit de plus en plus animée de cet esprit de foi, de confiance dans l'amour de Dieu. Et aussi, comme le disait le curé d'Ars, que nous apprenions à accepter la part de croix qui est nécessaire dans le plan de Dieu pour que vraiment le Saint-Esprit puisse réaliser par Marie, ce chef-d'œuvre que nous devons être pour la joie de Dieu. Je m'arrête là et permettez-moi de laisser la parole, enfin, vous allez dire, enfin, au Père Marie-Joseph lui-même pour conclure.
Le chemin vers Dieu, c'est Jésus, et le chemin vers Jésus, c'est Marie. C'est pour cela, dans notre cœur inséparable, l'amour de notre cœur pour Jésus, par Marie, et en Jésus et par Jésus vers le Père. Le monde actuel est tellement déboussolé. Pourquoi ? On parle beaucoup de psychologie. Peut-être jamais comme autant de nos jours, on manque de vraie sagesse et de vraie psychologie. On devrait savoir un enfant sans son papa et sa maman, mais il est malheureux. Et le monde est malheureux parce que il ne va pas, et tout est en dessous, parce qu'on a perdu le sens de Dieu. Et c'est à nous, chrétiens. Et c'est quelle mission ? C'est la première mission. Après la messe, on nous dit toujours, allez, l'envoi en mission. Il était mis à est, la messe est terminée, mais partez maintenant en mission. Mais quelle est cette mission ? D'être simplement dans le monde des chrétiens qui ont la foi, comme des enfants envers Dieu. Tout est là. Et donc, le chemin, heureusement, c'est encore une grande sagesse de la part de Dieu qui nous a confié à Marie. Le père Kolb l'a compris comme rarement quelqu'un l'a compris depuis que l'Église existe. Sans doute Saint Jean l'Évangéliste, à qui Jésus a confié sa mère. « Voici ta mère. » Eh bien, alors nous aussi, nous aimons déjà la Sainte Vierge, sûrement. Mais peut-on dire qu'on l'aime assez? Jamais on n'aimera assez une bonne maman. Jamais on n'aimera assez la maman des mamans, la très Sainte Vierge Marie. Que de fois je dis, je n'aime pas la sentimentalité dans la piété. Mais, et que de fois j'avais peur, en parlant de la Sainte Vierge Maman, que ça puisse devenir ta sensiblerie. Mais depuis que j'ai compris que le père Kolb, ce grand saint des temps modernes, cet homme viril, cette âme virile 100%, eh bien, appelé la Sainte Vierge Maman. Et depuis que j'ai vu, lorsque la statue de Fatima a été amenée à Rome pour la grande journée des familles, que le pape posait sa main comme un petit enfant sur la main de la Sainte Vierge, sur le cœur de la Sainte Vierge, j'ai tout compris. Donc, et c'est pour ça, depuis un certain temps, j'ose vous dire aussi, regardons la Sainte Vierge Marie, la maman. Et nous la saluons, la meilleure salutation, c'est toujours l'Ave Maria. Et alors l'Ave Maria, surtout, sous forme de l'Angélus, il est bon de le maintenir chaque jour, au moins une fois.